Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du mardi. À partir de 12h55, rendez-vous avec l'historien d'art Philippe Dagen, auteur de Primitivisme, une invention moderne chez Gallimard, une étude de ce concept, de ce courant, un examen critique de cette notion et un retour sur les motivations des avant-gardes occidentales à l'époque avec un regard neuf, celui d'aujourd'hui. Mais d'abord, une affiche à la Magritte et dans la veine d'une Tati, d'un Chaplin ou encore d'un Keaton, trois influences revendiquées. Elle met en scène Pierre Richard au Théâtre de l'Atelier à Paris, dans Monsieur X, à voir jusqu'au 8 mars. Après Open Space et Le Banquet, elle retrouve un style à la fois poétique et burlesque qu'elle a fait sien. Mathilde Appet est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture, plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Dehors, le monde change, dedans, le temps passe. Il vit seul dans une pièce, chambre, cuisine, bureau. Un quotidien bien ordonné, se réveiller, petit déjeuner, ranger, peindre, déjeuner, etc. 24 heures dans la vie d'un homme, du lever au coucher. Bonjour Mathilde Amet.
Bonjour.
Comment l'avez-vous imaginé, ce monsieur tout le monde ?
C'est le fruit de mon admiration pour Pierre Richard. Moi, je pratique, donc c'est mon troisième spectacle, un théâtre sans parole. Et Pierre Richard, pour moi, est le comédien du corps. Après Jacques Tati, je trouve qu'en France, il n'y a pas eu un comédien qui ait une signature physique, expressive à ce point.
Qu'est-ce qui le rend unique ? Qu'est-ce qu'il a de plus explicite, de plus parlant ? C'est ses yeux ? C'est ses mains ?
C'est son corps ? Ses jambes, il a une espèce de rythme intérieur, de gestuel, d'une souplesse, une virtuosité physique. Il est encore évidemment à son âge. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on lui propose, m'a-t-il dit, des rôles de vieux aujourd'hui. Alors on lui demande de se lever lentement, etc. Moi, je le prends pour ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec toujours une espèce de vivacité dans le corps et dans l'esprit et une capacité d'amusement hors norme.
Il y a 2-3 ans, il racontait les nuits au théâtre du Rond-Point, à Paris notamment, et il nous disait qu'il rêvait d'un grand rôle classique un jour, un roi lear.
Ah oui ?
On l'imaginerait bien aussi
On l'imagine
dans un Shakespeare.
Il est lumineux. Mais là, je crois qu'il m'avait écrit une lettre quand il avait vu mon premier spectacle Open Space, qui commençait par « J'ai pas dormi de la nuit ». Où il expliquait qu'il avait toujours rêvé de faire ce type de spectacle sans parole, qu'il n'avait pas osé à l'époque faire du cinéma sans parole et que c'était son rêve.
Monsieur X, c'est donc Pierre Richard, c'est-à-dire pas n'importe qui. Vous avez parlé de son âge, mais sans le chiffrer. Il a 85 ans et il impose aujourd'hui encore son souffle sur scène, Pierre Richard. Oui. Il occupe l'espace avec sa gestuelle. On sent qu'il est toujours timide, mais qu'il se soigne aussi à travers ce lien très particulier, très direct qu'il arrive à établir avec son public. Pierre Richard, c'est tout à la fois Alexandre le Bienheureux, le distrait, le grand blond avec une chaussure noire, la chèvre, un fugitif et un compère. Monsieur X, ce rôle sur mesure que vous avez tricoté pour lui, que vous lui avez écrit, est-ce que vous l'avez fait aussi sans faire table rase de tout ce qu'il convoque à travers son corps ?
Au contraire, j'ai vraiment été inspirée. D'abord, l'art que je pratique est un mélange un peu hybride de mon histoire de danseuse et ma musicalité et tout ça. Vient aussi des influences comme la gestuelle de Pierre, c'est-à-dire que il fait partie de mon inconscient, de l'inconscient de tout le monde, je pense, et de notre mémoire collective, et donc c'est ce qu'il est aussi qui m'a donné l'idée vraiment de d'inventer ce personnage qui est un artiste et qui par sa vision du réel transcende le quotidien.
C'est vrai que quand on pense muet, on a tout de suite des références cinématographiques qui viennent en tête. Alors on parlait de Buster Keaton, Charlie Chaplin, Jacques Tati aussi. Il y a aussi une tradition du muet au théâtre.
Il y a ce qu'on appelle le théâtre visuel, effectivement, pratiqué par notamment James Thierry ou Philippe Gentil, qui sont plutôt orienté vers des rêves oniriques, des univers fantasmagoriques. Mes spectacles, bon, c'est du théâtre visuel aussi, mais c'est très narratif. J'essaye de raconter une histoire, mais ils sont pas muets pour autant, mes personnages. C'est-à-dire qu'ils pratiquent dans les précédents spectacles, notamment, beaucoup de ce qu'on appelle du borborygme, qui est une imitation de paroles musicalisées un peu. Et là, Pierre aussi parle de temps en temps, enfin, il grommelle.
Sur ce personnage, ce monsieur X, ce monsieur tout le monde, incarné par Pierre Richard, on peut dire aussi qu'il a des rêves qui l'amènent ailleurs en permanence, hein, qui le sortent de ce quotidien presque très étroit, très étriqué. Son imagination, elle est comme un puits ou comme une tasse sans fond qu'on retrouve sur scène. Où est-ce qu'elle l'emmène, cette imagination ?
Moi, je pars du principe que l'intime est infini et que c'est par l'accès à son intimité qu'on parvient à découvrir le monde imaginaire et qui est fait de son histoire, des histoires de transgénérationnelles, de ses fantasmes, de son inconscient. Tout ça crée l'imaginaire, mais pour y accéder, il faut de l'isolement. Et c'est la condition sine qua non, je pense, de la vie d'un artiste, finalement, pour être en contact avec sa propre créativité. Il doit se couper un peu du monde, s'isoler, pour accéder à cette intimité. Et pour moi, l'intimité est une richesse infinie. Et là, j'ai essayé, à travers le personnage de Monsieur X, de traduire cette intimité en faisant du grand spectacle avec de l'intime.
C'est l'intimité ou c'est de la solitude ? Parce que c'est assez marquant dans toutes vos pièces, de Open Space jusqu'au Banquet, vos personnages n'échappent pas à la solitude. Mmh. Open Space, c'était sur la vie de bureau, c'était un spectacle déjà sans dialogue. Même dans un espace collectif comme celui-là, où on doit cohabiter, on n'échappe pas à la solitude. Hein.
Oui. Oui, on est tous dans des solitudes, confrontés à l'altérité. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre? Comment on négocie avec la proximité, notamment? Là, c'est le cas aussi de Monsieur X qui doit négocier avec ses voisins, son concierge et des éléments perturbateurs finalement de son monde intime qui lui est un monde assez merveilleux et qui est sans cesse dérangé par l'extérieur. Et c'est vrai que la question de la solitude, moi je la vois comme un endroit d'évasion, un endroit où tout peut être transcendé. Je ne vois pas la solitude, moi, comme un poids, mais parce que je me retrouve relativement fréquemment à créer et donc à m'isoler pour pouvoir le faire.
Ça s'apprend, la solitude, vous l'avez appris,
oui.
Vous, Mathilde Amay ?
Oui, je l'ai appris, c'est pas évident d'emblée, c'est souvent anxiogène dans les sociétés d'aujourd'hui. C'est considéré comme... on est évidemment plus vulnérable quand on est face à soi-même réellement. Peut-être que c'est plus risqué et que c'est plus simple de s'évader en faisant diversion et en étant très entouré. Moi, je pense que j'ai appris à le faire progressivement et j'y arrive que depuis une petite dizaine d'années, mais c'est un endroit, quand on y accède, qui est extraordinaire. C'est ce que j'essaie de raconter à travers Monsieur X.
Burlesque, c'est un tempérament pour vous ou une attitude ?
C'est un mode de vie, c'est un axe, une façon de regarder le présent et de pouvoir le supporter mieux, de le transcender. L'humour en général, le burlesque en fait partie, mais moi je ne sais pas vraiment si mon théâtre est burlesque. C'est plutôt vers l'absurde que vers le burlesque que je me dirige, vers tout ce qui peut... prendre vie parce qu'on le regarde de telle manière.
Burlesque, c'est le mot qu'emploie pourtant Pierre Richard quand il parle d'une de ses références, influences, Buster Keaton. Mmh. Et Pierre Richard, faut le rappeler, c'est d'abord quand même une solide formation au théâtre. Sur Buster Keaton, écoutez ce qu'il disait sur l'homme qui ne riait jamais.
J'ai pris conscience de son génie. Évidemment, j'étais dans le même tiroir, personnellement. C'est pas par hasard que j'ai fait du cinéma burlesque et physique. Quand je suis rentré dans les cours de théâtre et que j'ai commencé à aller voir beaucoup de films, il est évident que je me suis retrouvé non pas une ressemblance physique au contraire, mais en tout cas une correspondance, une empathie énorme et une admiration. J'étais peut-être le plus athlétiquement le plus fort quand même. C'est incroyable physiquement ce qu'il pouvait faire, la vitesse avec laquelle il courait, le danger de ces cascades, c'est incroyable des fois. Une seconde de trop, c'est trop, et une seconde de moins, c'est pas assez. Il y a une espèce de sens du tempo. C'est Chaplin et chez Keaton. Alors chez Keaton, c'est évident. Alors, je ne crois pas que Keaton faisait ses musiques, mais il est évident que quand il déroule un film, il déroule une partition.
Bon, il faut dire tempo et Chaplin avec Pierre Richard. Déjà, on l'apprend. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit à propos notamment de Chaplin, oui. Parce que ce lien intime du cinéma muet avec la musique, il est très présent dans son œuvre. La Philharmonie d'ailleurs de Paris nous en fait les témoins en ce moment avec l'exposition Chaplin, l'homme orchestre, où on retrouve son corps dansant dès ses premiers films à travers toutes ces images. L'expo montre aussi comment lui, il a grandi avec la musique, avec des parents qui venaient du music hall, était chanteur, comme vous, il a appris le violon avant d'abandonner en se disant qu'il serait jamais le plus fort là-dedans, mais il a continué à composer la musique pour ses films. La composition, pour vous, des sons, de la musique, vous avez fait appel à Ibrahim Malouf, elle est venue après, vous avez d'abord mise en scène, composée avec Pierre Richard, et après vous avez fait le son ?
Non, alors j'ai cette particularité, je sais que pour le théâtre visuel, souvent les comédiens, metteurs en scène, auteurs travaillent en plateau, c'est-à-dire qu'ils composent avec les corps sur le plateau pour inventer, écrire. Moi j'écris tout avant. C'est comme une sorte de grande didascalie qui décrit exactement toutes les actions, tous les gestes et les sons. C'est-à-dire qu'en même temps que j'écris, j'entends. Et donc, je conçois toute la bande-son avant, y compris le travail de musique avec Ibrahim Malouf, qui a été vraiment extrêmement à l'écoute et disponible. Et on a été voyager vraiment musicalement dans différents mondes. Et je sais qu'Ibrahim avait cette ouverture d'esprit et une culture très polyvalente, quoi.
C'est intéressant ce monde du muet justement parce qu'il mobilise le corps. Vous évoquiez tout de suite le corps de Pierre Richard que vous avez choisi de mettre en scène. On a tendance à le comparer avec la danse. Et Pierre Richard, lui, il parle de dérouler une partition. C'est aussi comme ça que vous avez composé la vôtre avec cette envie de faire une pièce, une mise en scène très rythmée avec un tempo très particulier où on ne s'ennuie jamais.
Ah oui, moi je cherche vraiment les rebondissements tout le temps. Je pense qu'au théâtre, moi je me suis relativement souvent ennuyée, j'avoue, au théâtre. Donc, c'est ma hantise. Je suis vraiment obsédée par le rythme. Et puis, je crois beaucoup, comme disait Françoise Dolto, que tout est langage.
La musique aussi.
Oui, bien sûr.
On sait que Chaplin aimait bien les grands classiques de Wagner à Tchaïkovski. Vous avez écrit aussi en musique, Mathilde Amet. Vous avez votre bande-son intérieure pour la composition de ce spectacle.
Non, quand j'écris, je suis dans le silence parce que j'écoute la rythmique du mouvement. Je ne sais pas comment décrire, c'est un peu bizarre cette phrase, mais je vois quand... À un moment donné, le rythme est lent parce qu'il va y avoir quelque chose qui va, un contretemps. J'aime beaucoup les contretemps, j'aime beaucoup créer des surprises et des mouvements comme on compose de la musique. Oui, c'est vraiment un ressenti très organique, quoi.
Là, on l'entend dans cet extrait de cette composition d'Ibrahim Malouf pour le spectacle, pour la pièce. On entend l'évasion à travers ces notes, cette envie
d'ouvrir cette fenêtre, ce que Monsieur X ne fera jamais dans le spectacle ou très peu. Il s'échappe vraiment avec tout au long avec son imaginaire. C'est une pièce écrite donc pour vous dans la grande tradition du muet au cinéma et au théâtre. Mais le muet, c'est pas le silence.
Ah non, moi c'est pas totalement muet dans la mesure où il s'exprime aussi avec sa voix, Pierre, mais dans le grommelot. Et comme il est seul, bon, c'est un dialogue qui s'opère par d'autres biais. C'est-à-dire que évidemment il y a énormément de sons. Moi, je suis une passionnée de sons, donc. Au théâtre, j'ai remarqué qu'on n'utilisait pas beaucoup ce qu'on fait au cinéma, c'est-à-dire le sound design qui permet d'amplifier les sons et qui donne au geste une autre dimension. Au cinéma, on a l'habitude, par exemple sur les films d'action, un coup de poing n'est jamais le son réel d'un coup de poing, c'est toujours amplifié, on est habitué à ça. Et moi j'aime bien utiliser ce système sur scène pour d'abord développer la force comique hein, du geste, mais aussi pour amplifier le ressenti du personnage.
Donc des bruiteurs, donc des arrangeurs et toute une équipe qui a travaillé aussi sur ce Monsieur X. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut se passer de mots dans la vie pour vous ?
Moi je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup de mots creux dans nos sociétés, beaucoup de mots, notamment par les grands communicants hein, qui visent à un petit peu anesthésier les esprits. Moi j'aime... essayer de trouver d'autres façons d'accéder et de se rencontrer. Je pense que d'abord tout est parlant et je mesure là à travers mes spectacles notamment la force de l'impact du geste. Et on a beaucoup d'autres façons de se comprendre en dehors de la parole. Et tout raconte quelque chose, une posture, une démarche, une façon de regarder, une façon de se tenir. Tout dit quelque chose et moi je suis une ancienne timide, alors j'ai beaucoup observé les gens et tout les raconte.
D'ailleurs depuis tout à l'heure on a toutes les deux le menton dans la main, c'est par mimétisme, je suis en train de réaliser qu'on fait le même geste.
On est habillés pareil en plus.
Et ça oui, c'est le jour de Noël, du noir. Quel est le mot que vous détestez le plus aujourd'hui ?
J'ai pas pensé à ça. Faudrait que ça mérite une petite année de réflexion, cette question. Je ne sais pas, là. C'est tout ce qui peut référer à l'arrêt. Moi, j'aime tellement le mouvement. Je suis moi-même en mouvement perpétuel, en recherche, en développement. Donc, l'inverse du mot mouvement, ce serait quoi? L'arrêt? Peut-être.
Le stop.
Le stop.
Quand on enlève les mots, que reste-t-il?
Un infini d'expressions, un infini d'humains, un infini de vibrations, de ressentis, de perceptions, d'écoute, d'observations. J'ai remarqué par exemple que dans les salles de théâtre où se jouent mes spectacles, le fait qu'il n'y ait pas de mots oblige quasiment les spectateurs à être plus observateurs et à mieux regarder.
Il vit entouré de présence, votre personnage. Les murs parlent, le vide ordure digère la boîte aux lettres, recrache le courrier. Sous le lit, on sent la présence d'un monstre qui dévore tout ce qu'on lui envoie. Tout parle, sauf lui. Votre quotidien à vous aussi, il est peuplé de sons. Vous y prêtez attention?
Oui, je prête attention à tout. Je trouve que c'est une des façons de mieux vivre. Finalement, c'est de tout voir, tout percevoir. D'être à l'affût parce qu'il y a de la magie dans tout, il y a de la drôlerie dans tout, une conversation entre deux personnes dans la rue qui mangent en même temps un sandwich et qui n'articulent pas, il y a de quoi se réjouir en vrai, plus on observe et mieux on vit, pour moi c'est le cas en tout cas.
Prêter attention à ce qui nous entoure, c'est aussi ce à quoi nous invite ou nous invitait le cinéma de Jacques Tati de Playtime à mon oncle.
Steak. Bon, alors, 2, 4...
Mais moi, je regarde, oui, j'observe beaucoup. Je crois que ça s'apprend, l'observation, oui. Je crois que c'est indispensable. Je vais vous donner un exemple.
C'est pour le sucre.
Vous arrivez à Orly, et l'hôtesse annonce qu'il y a un décalage d'une demi-heure dans le départ de l'avion. Alors, tout à coup, c'est un branle-bas de combat. On voit des gens s'énerver, l'américain qui dit « I want a telex right away from Londres ». Enfin, je veux dire, ça devient l'affolement. Et moi, je reste dans mon coin et je dis, bon, d'ici 10 minutes, je vais peut-être voir le meilleur film de la semaine. Bon. Or, les gens ne prennent pas le temps d'observer. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un tort, parce que les enfants observent magnifiquement bien. Alors, je crois que, pris dans cette compétition de cette vie moderne, qui est intense, qui est la nôtre, les gens qui sont ce qu'on peut appeler dans le bain n'ont plus le temps d'observer.
Voilà, oh, avec le temps, on désapprend juste. Et il faudrait apprendre à réapprendre. C'est vrai qu'il faut aussi le dire, c'est un spectacle tout public.
Oui.
C'est-à-dire que les enfants sont particulièrement touchés et émerveillés
par ce qui passe. Hyper réceptifs, je les entends rire et je les entends jubiler parce que, oui, ça parle à l'enfance de chacun de nous. Je pense que cette façon de s'adresser au public sans parole, c'est d'autant plus parlant pour tout le monde, je crois.
Apprendre à regarder ce qui se passe autour et les objets aussi qui peuplent notre quotidien. Ça, c'est Christine Montalbetti chez POL et à la Comédie Française, qui est l'auteur de la conférence des objets, qui revenait autour de cette grande table sur la place des objets dans nos vies, comme preuve de nos existences. Ces objets qui sont au centre de notre façon d'exister, qui nous parlent souvent quand on les regarde. Vous avez cette habitude-là aussi de communiquer, de communier presque avec des objets qui vous appel, un voyage, un amour, un deuil, une personne disparue.
Alors, j'ai pas un rapport aux objets très très intense parce que je suis beaucoup dans l'évasion et beaucoup dans les personnes, et c'est ce qui fait que j'ai aucun sens de l'orientation, parce que je m'attarde plus sur les visages et les comportements humains que sur les endroits où je me trouve. Donc je me perds tout le temps, mais non, là, c'était plutôt dans le spectacle Monsieur X. C'est vrai que les objets ont une part très importante. Et en vrai, c'était plus parce que je me mettais à la place de ce monsieur qui est dans son quotidien, qui est un peu restreint, puisque c'est un endroit très modeste où il y a peu de choses. Mais ces peu de choses-là, c'est sa vision à lui qui les transforme et qui les rend vivants, ces objets.
Mathilde Amet est notre invitée jusqu'à 12h30, encore quelques minutes, pour Monsieur X, qu'elle met en scène avec Pierre Richard. C'est en ce moment à voir au Théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 8 mars.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Open Space d'abord, puis Le Banquet, puis aujourd'hui Monsieur X. Le Banquet, là déjà, onomatopée, borborygme, ballet, clownerie et mime. C'était une dizaine de comédiens qui étaient sur scène.
Ça reprend d'ailleurs.
Et ça reprend
au Théâtre de Paris à partir du 14 janvier.
Jusqu'à la fin février. Molière de la mise en scène pour vous, pour cette pièce. Sur scène, l'union c'est la force, mais le mariage lui tournait carrément au cauchemar. Avec vous, on voit que tout s'échappe quand même. Le sens du travail dans Open Space, les rêves dans Monsieur X, les joies dans Le Banquet. Vivre, c'est aussi apprendre à rattraper ce à quoi on tient vraiment, pour vous, Mathilde Amet.
C'est surtout à transformer ce qui surgit. Parce que c'est la clé, finalement. Les épreuves, on en connaît tous, plus ou moins à des échelles différentes, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on en fait? Hein, où est-ce qu'on transporte tout ça et qu'est-ce que ça nous apprend surtout?
Ciné qui danse, ciné qui chante.
Ah
oui.
1, 2, 3, 4, c'est simple, vas-y, on est prêt. Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma ta bonne humeur m'enchante.
T'as les places? J'ai fait la queue pendant 3/4 d'heure et quand je suis arrivée au guichet c'était complet, même les places à 133 francs là-haut. C'est dingue.
Tu l'as dit.
Mais qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je regarderai droit dans les yeux, comme ça, et puis je lui dirai... Voilà, il me faut 3 places pour le 26.
Deux semaines de la première. Non, c'est pas possible, les enfants, c'est foutu.
Moi, je peux essayer, si vous voulez.
C'est l'amour qui...
Ciné qui danse, ciné qui chante. Aujourd'hui, vous mettez en scène Mathilde Amet, mais c'est au cinéma que vous avez aussi appris à apprivoiser le rythme. On se souvient de vous, coupée au carré, brune, robe rose bonbon, en groupie du chanteur dans Trois places pour le 26, comédie musicale de Jacques Demy sur une musique de Michel Legrand, avec Yves Montand en Fred Astaire, préparant son spectacle de retour dans sa ville de Marseille. Quatre ans après, c'était quatre ans après Nemo de Claude Nejar, après les deux Claude Zidi et Chabrol aussi. Vous avez dit que longtemps le cinéma vous a servi à vous cacher. Aujourd'hui, en coulisses, au théâtre, vous ne vous cachez plus.
Ah non, là je me surexpose. Là c'est vraiment le fruit de toutes mes vies, en fait tout ce par quoi j'ai été traversée, commencé par la musique qui est vraiment mon socle existentiel, et puis la danse qui a été une partie très importante de ma vie et qui est toujours omniprésente, et puis le jeu et la narration, tout ça en fait fait sens aujourd'hui, se retrouve dans tout ce que j'écris et je mets en scène. Et donc là, c'est tout moi. C'est toutes mes vies qui se regroupent là. Et donc, quand je montre mes spectacles, c'est vraiment absolument moi de A à Z. Je me sursollicite sur tous les fronts, sur le plan de l'oreille, sur le plan des sons, de la vision. C'est ma vision du monde. Enfin, j'essaye de... Alors donc oui, c'est surexposant. J'ai jamais eu autant peur de ma vie entière que quand je montre pour la première fois un spectacle. Quoi, c'est, je suis dans tous mes états, hein, chaque soir d'ailleurs.
Mais vous donnez aux acteurs et vous donnez au public, et c'est aussi une façon de s'oublier peut-être pour vous.
Ou de mieux être. C'est-à-dire que j'ai pu constater que quand j'étais regardée, on me voyait moins bien finalement.
C'est marrant parce qu'avec la danse, là, vous avez dit avoir développé une inaptitude à dire non.
Ouais.
Toute votre vie, ça a été aussi un cheminement pour reprendre la maîtrise de vos sensations, de vos émotions et de vos envies.
C'est-à-dire que je ne l'avais pas perdue, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas cette j'étais embarqué, si vous voulez, par le monde de la danse avec sa rigueur et sa discipline et sa dureté. Après, j'ai été embarqué par le milieu du cinéma qui m'a choisi sans que je choisisse vraiment, moi, vers qui je voulais aller. J'étais hyper jeune quand j'ai commencé. Et puis, finalement, à force de me questionner sur le sens de ma vie, finalement, je me suis dit qu'est-ce que je pouvais essayer de créer qui venait de moi, quelle était ma spécificité. Ma spécificité, elle est ma pluralité, mais toutes ces disciplines en fait que j'ai pratiquées, qui maintenant font sens et se regroupent dans ce que j'écris.
Monsieur X est à voir en ce moment à Paris au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 8 mars avec Pierre Richard, vous, Mathilde Amet, et cette pièce va tourner en France.
Ouais, même à l'étranger.
C'est parti. Merci beaucoup.
Merci à vous.